On va peut-être continuer aujourd'hui. Donc vous vous rappelez que, pour ceux qui étaient là les semaines précédentes, que nous avons parlé un petit peu de deux choses qui tombent un petit peu opposées l'une à l'autre. Dans le premier temps, j'ai parlé de la manière dont le système visuel de la drosophile se développait de façon extrêmement déterministe, c'est-à-dire qu'en fait, tout était programmé et qu'en fait, on peut avoir un système qui produit un nombre bien précis de neurones avec tous le même ordre, la même quantité, la même stoichiométrie. C'est quelque chose de très, très figé, qui représente bien ce qui se passe chez la drosophile et qui certainement aussi est applicable à des animaux supérieurs comme chez l'homme, mais en plus de ça, chez l'homme, une grande plasticité existe où en fait ce système très déterministe peut être assoupli et en fait est utilisé avec une grande ce qu'on appelle une sorte de dépendance de l'activité et du monde extérieur pour arriver à une grande plasticité pour faire s'arranger pour qu'on ait un beaucoup plus grand nombre de neurones dans le cerveau humain. La semaine dernière, je vous ai parlé aussi de ce qui se passait au niveau stochastique, et en particulier, toujours dans le même système visuel de la drosophile, de comment, en fait, certaines décisions étaient prises de façon stochastique, en fait, qu'on ne pouvait pas prévoir une cellule si elle allait devenir d'un type ou d'un autre type. Aujourd'hui, je vais reprendre un petit peu ces deux choses, ces deux notions, et essayer de voir comment on peut les mettre ensemble et voir comment, en fait, une décision stochastique peut être imbriquée dans un système qui est beaucoup plus déterministe, et comment ces deux systèmes peuvent arriver à rentrer l'un dans l'autre. D'accord ? Donc, ça, c'est le titre de mon cours, d'accord ? Vous vous rappelez, système stochastique, le plus bel exemple de celui de Dave Dubnow et Michael Lovitz, vous avez E. coli, donc Escherichia coli, qui est une bactérie qui a un nombre de bases bien précis, qui est toujours la même chose, se divise de façon mitotique, et pourtant, certaines fois, certaines des bactéries deviennent vertes, parce que dans ce cas-là, elles expriment le gène COMK, qui est un gène qui te fait une autorégulation, et qui permet en fait ces bactéries de rentrer dans un état physiologique différent, qui leur permettrait éventuellement de résister au traitement des antibiotiques. D'accord ? Donc, même si c'est une division mitotique purement simple et dure, on arrive quand même à avoir une diversification qui est stochastique. Je vais parler beaucoup plus aujourd'hui du système olfactif de la souris, des mammifères. Et vous avez ici une souris et un système olfactif qui est beaucoup plus développé que le nôtre, puisqu'en fait, les souris ont de l'ordre de 1400 récepteurs olfactifs, donc des gènes qui codent pour des récepteurs olfactifs. Et ici, je vous en montre uniquement trois. Vous voyez que parmi ces cellules récepteurs olfactifs, il y en a certaines qui expriment le gène vert, le gène rouge et le gène bleu. Et ici, peut-être encore plus, de façon plus dramatique, quand même dans une coupe de votre... Dans le système olfactif de souris, on peut voir que vous avez une grande diversité d'expressions. Chacun des récepteurs olfactifs exprime un seul gène, et donc de façon tout à fait extrême, il y a vraiment une grande diversification qui existe. Donc la question se pose, c'est comment, si on a un répertoire de 1400 gènes chez la souris, 1650 chez le petit chien qui va à Kennedy venir sentir vos bagages quand vous allez là-bas. Donc, comment on arrive à choisir 1600 gènes de telle sorte qu'un seul de ces gènes soit exprimé dans cette cellule, un autre ici, un autre ici, un autre ici, un autre ici. Vu que notre répertoire de gènes ensemble est de 25 000 gènes, 1400 gènes ou 1600 gènes, ça fait 5-6% de notre génome. Comment on arrive à contrôler 5 ou 6% de notre génome avec 25 000 gènes? On n'a pas assez d'informations pour pouvoir contrôler, de dire vous allez être le gène vert va être ici, le gène rouge va être ici, le gène blanc ici, le gène rose ici, le gène jaune ici. D'accord? Donc il n'est pas possible de pouvoir choisir de façon déterministe. Donc la seule solution pour faire ça, c'est de le faire de façon stochastique. C'est-à-dire qu'on va donner une règle. Vous choisissez le gène que vous voulez. Une fois que vous avez choisi ce gène, vous devez vous y tenir et vous ne pouvez pas exprimer aucun autre gène là-dedans. D'accord ? Donc, c'est en grande partie un travail de Stavros Lombardas, qui est du travail qui sont des diapositives qu'il m'a donné très récemment, du temps vraiment très frais, très neuf, qui nous permet de comprendre comment ces décisions vont être prises. Okay ? Non seulement vous avez 1400 gènes et un seul de ces gènes exprimé dans une seule de ces cellules réceptrices, mais en fait un seul allèle de ce gène. Vous savez qu'on a le gène du père et le gène de la mère. Ici, vous avez une souris qui exprime le même gène, un seul de ces récepteurs olfactifs, le numéro 17, qui est accroché à la GFP. Celui-là a été crispé à l'AXZ. Vous les croisez, vous avez une souris qui est hétérozygote. Donc il y a deux allèles, un du père qui exprime la GFP, l'autre de la mère qui exprime l'AXZ pour le même gène. Et pourtant, vous voyez que si vous êtes dans des coupes de son système olfactif, un seul de ces gènes est exprimé, soit le gène rouge, soit le gène vert. Donc, en fait, ce n'est pas un choix entre 1400 gènes, c'est un choix entre 2800 allèles qui doit se faire, où un seul de ces allèles parmi ces 2800 est exprimé. À nouveau, comment essayer de contrôler ça au niveau génétique de façon déterministe, c'est vraiment pratiquement impossible d'imaginer comment ça peut se faire. Okay. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment arrive cela se passe et comment on arrive malgré tout à avoir un système qui, comme dans cette image ici, est si bien établi, puisqu'en fait, chacune de ces cellules n'exprime qu'un seul allèle, qu'un seul gène. Et il n'y a pas d'exception à ça. Et en fait, c'est un peu compréhensible, parce que si le gène blanc, la cellule blanc exprime non seulement le gène blanc, mais aussi le gène rose, il serait un petit peu confus, il ne saurait pas quelle odeur il pourrait détecter. Donc la question qui se pose, c'est comment le système est établi afin de pouvoir voir que même si c'est une décision stochastique, elle est extrêmement robuste puisque les règles sont appliquées de façon très très stricte. Donc ces 1400 gènes dans le génome de la souris, qui est le système qu'on connaît bien, sont en fait répartis sur tous les chromosomes. Okay, et en fait, ils sont répartis en 69 clusters, c'est-à-dire c'est des groupes de gènes qui sont répartis un peu sur tous les chromosomes, mais ce n'est pas un seul gène, c'est un petit groupe de gènes à la fois qui sont répartis sur le chromosome. D'accord ? Et de façon très intéressante, il y a pas mal de choses en commun parmi ces différents gènes. Dans la mesure, d'une part, ce sont des gènes qui sont extrêmement AT riches, donc le promoteur est très riche en AT par rapport à CG, par rapport, donc, vous voyez que ce sont les gènes olfactifs, c'est le reste du génome, mais surtout, chacun de ces 69 clusters qui contient aussi tous ces gènes ont un élément enhancer. Cet élément enhancer est en fait très bien déterminé dans la mesure où il contient un site de liaison à ces transcriptions de facteurs LHX2, et IBF et LDBD1. Okay. Donc il semble qu'en fait, que même s'il y avait une grande diversité de gènes, ils ont tous en commun une certaine caractéristique de leur promoteur, mais surtout le fait qu'ils contiennent des sites de liaison à trois facteurs de transcription qui semblent les déterminer comme étant disponible pour être exprimé dans un des récepteurs olfactifs de l'épithélium olfactif de la souris. Donc, pour récapituler ce que je viens de dire, il y a de nombreux récepteurs olfactifs dans notre génome. 350 chez nous, on n'est pas très olfactif, on est beaucoup plus visuel, d'accord. 1400 chez la souris, 1700 chez le chien, d'accord. C'est pour ça que les chiens sont utilisés à Kennedy pour vous sentir. Et la règle très stricte, un seul récepteur par neurone, ce qui fait qu'un seul de ces 1700 gènes ou un seul de ces 3400 allèles est exprimé uniquement dans chacun des récepteurs olfactifs. Okay. Et qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'une des règles qui permettait à ce système de fonctionner, c'est qu'une fois qu'une décision a été prise, une fois qu'un récepteur a été exprimé de façon stochastique, ce récepteur va supprimer l'expression de tous les autres récepteurs. La présence d'une protéine à la membrane va permettre de prévenir l'expression de tous les autres gènes, tous les autres allèles de ces récepteurs olfactifs. Donc, comment est-ce que ce système fonctionne ? Okay. Donc, c'est ce que j'ai démontré, qu'une fois que la protéine est à la membrane, elle va supprimer toute l'expression, uniquement ce gène, pour être maintenu durant la vie de cette cellule. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans une cellule, ce que vous avez donc ces 1400 gènes qui sont groupés en 69 clusters, qui sont donc ces 69 enhancers qui sont représentés en jaune. Et l'idée qu'on peut avoir, et ce, qu'en fait, ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que durant le développement de ces cellules, ce qui va se passer, c'est que tous ces enhancers vont se grouper ensemble, d'accord, vont se grouper ensemble, ils vont faire une sorte d'enhancersome, donc une sorte de groupe d'enhancers, et que c'est là que va se passer toute l'activité, qu'en fait, c'est là que va être recruté le gène qui va être exprimé. Donc on va tout mettre ensemble, et à partir de ça, d'en sortir un, de dire celui-là, tu vas être exprimé, là, d'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut démontrer ce genre de choses, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'en fait, il y aura une structure de la chromatine, une structure enfin, du chromosome qui est bien établie, qui permet de regrouper tous ces enhancers dans un enhancersome. En fait, on sait qu'au niveau des chromosomes, il y a une organisation des chromosomes, et en général, les chromosomes sont bien séparés l'un de l'autre. C'est une photo ici qui me permet de montrer les différents chromosomes. Et vous voyez que ces différents chromosomes sont bien regroupés dans la cellule. Ils sont bien séparés l'un de l'autre dans la cellule. Or, ce que je viens de vous dire, d'après le modèle précédent, c'est qu'en fait, il semble que ces enhancers semblent ignorer complètement de quel chromosome ils viennent, mais ils se regroupent ensemble pour former cet énorme enhancersome. Okay. Donc, pour essayer d'évaluer ce genre de choses, on peut utiliser une technique qu'on appelle HiC, qui est en fait une technique qui est assez simple, qui marche de façon étonnamment bien, qui en fait consiste à la chose suivante. Si deux séquences d'ADN, par exemple deux enhancers, sont proches l'un de l'autre, d'accord ? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les crosslink, comment on dit ça, crosslink. On peut donc les attacher l'autre par des UV, et donc deux séquences ADN qui sont l'une proche de l'autre pourront être attachées par des UV, d'accord. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est on va les liguer, et donc on va ensuite extraire tout l'ADN et essayer de séquencer tous ces fragments qui sont en fait faits de deux séquences qui proviennent de deux endroits différents du génome qui ont été amenés ensemble. Donc, on peut faire ça au niveau du génome en entier. et on peut s'apercevoir quelles sont, parmi toutes les séquences du génome, celles qui sont proches l'une de l'autre. Donc ça donne une certaine une quantité d'informations qui est assez importante, très importante, et qui nous permet d'évaluer où sont les comment les chromosomes sont organisés. Donc ce qu'on peut s'apercevoir, c'est par exemple, dans ce chromosome-là, vous avez deux clusters de gènes olfactifs, dans celui-là vous avez deux autres, et si vous regardez où est-ce qu'ils se trouvent au niveau du chromosome, ils sont en fait dans deux de ces domaines qu'on appelle des TAD, qui sont des domaines chromosomaux qui en fait représentent des zones d'interaction à l'intérieur d'un chromosome entre des protéines d'ADN, des molécules d'ADN. Donc ce que vous avez ici, vous avez un chromosome, le chromosome 2. Sur le chromosome 2, vous avez en fait un énorme TAD, et cette TAD est en fait représente un domaine où les séquences ADN ont l'air d'être proches l'un de l'autre. Et vous savez que ce domaine en fait contient à la fois ce TAD est en fait ici, il représente à la fois ce cluster ici et ce cluster ici, d'accord ? Là même pas à dire, sur un autre chromosome, le chromosome 9, vous avez ces deux clusters qui font partie du même TAD, d'accord ? Donc c'est intéressant puisqu'en fait il semble que les deux TAD soient sur le même, ces deux clusters de gènes olfactifs soient sur le même TAD sur deux chromosomes différents. Si on est un petit peu en détail, ce qu'on aperçoit c'est qu'en fait, vous voyez que ce groupe de receveurs olfactifs en fait a des zones d'interaction avec celui-ci. Donc en fait ces deux-là sont plus proches l'un de l'autre que on pourrait s'imaginer en fonction purement de la distance. Donc en fait il y a une interaction privilégiée entre ce cluster et ce cluster que vous présentez ici. La même chose ici, vous voyez qu'il y a deux interactions privilégiées entre ce cluster et ce cluster. Maintenant, c'est deux choses qui sont des deux chromosomes différents. Donc, à l'intérieur même d'un chromosome, il y a une somme d'interactions à l'intérieur de ce chromosome entre deux clusters olfactifs. Mais si on regarde un petit peu ce qui se passe entre les deux, vous apercevez qu'en fait, non seulement à l'intérieur d'un chromosome, mais entre deux chromosomes, vous pouvez s'apercevoir qu'il y a un contact entre ces deux groupe de récepteurs olfactifs entre celui-ci et celui-ci, entre celui-ci et celui-là. Donc en fait, même entre des chromosomes qui sont différents, qui sur la diapositive précédente vous indiquait étaient localisés normalement dans des domaines bien particuliers, on s'aperçoit que malgré tout, d'une manière ou d'une autre, ces enhancers viennent ensemble, se retrouvent ensemble, et on peut le visualiser de cette manière-là en regardant ce qui se passe un petit peu au niveau de la chromatine. Donc en fait, ceci semble indiquer, c'est uniquement sur 4 clusters sur 2 chromosomes, mais on peut généraliser ça au niveau des 69 clusters. En fait, tous semblent avoir des interactions bien privilégiées et de se regrouper ensemble pour arriver à permettre l'expression stochastique de ce gène olfactif. En fait, on peut utiliser ce qui se passe au niveau du développement, c'est-à-dire qu'on regarde exactement le même système, mais dans un récepteur qui est en développement, donc très tôt au cours de son développement, c'est encore un progéniteur, ou un petit peu plus tard, ou en fait lorsqu'il est en fait mature, et on s'aperçoit que en fait ces interactions qu'on retrouve ici, qu'on a montré sur la diapositive précédente, celles-ci et surtout ces interactions-là existent chez le récepteur olfactif mature, mais elles disparaissent ou en fait elles n'apparaissent que lorsque le récepteur olfactif devient plus mature. D'accord ? Donc on s'aperçoit qu'en fait ce qui se passe, c'est que alors que on voit bien qu'en fait ici il n'y a pas d'interaction, ici vous avez une interaction. Donc lorsque le récepteur olfactif devient de plus en plus mûr, il va commencer à avoir ces interactions, réorganiser son ADN, réorganiser son chromosome, afin de mettre ensemble tous ces récepteurs olfactifs. En fait, de façon beaucoup plus tracking visuelle ici, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est très tôt au cours du développement, vous avez tous ces récepteurs olfactifs qui sont distribués sur le chromosome et que lorsque on a une maturation de ces récepteurs olfactifs, il y a un regroupement de tous ces enhancers qui sont représentés en vert et lorsque le récepteur est adulte et mature, en fait, ce que vous apercevez, c'est que vous avez tout un regroupement énorme de ces 69 récepteurs olfactifs. Cette représentation est une représentation statistique. C'est qu'en fait, ça ne veut pas dire que chacun de ces 69 enhancers est toujours ensemble. Mais statistiquement, on a un regroupement de ce qui se passe. Et qu'en fait, on peut s'apercevoir, c'est maintenant, parmi ces 69 enhancers qui contrôlent les récepteurs olfactifs, quel est celui qui va être choisi pour pouvoir permettre l'expression d'un seul de ces gènes-là. Donc comment on va extraire de ce groupe d'enhancers celui qui va être choisi? Donc, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est faire la même chose maintenant, mais de le faire à partir de récepteurs olfactifs où on sait quel récepteur est exprimé. D'accord ? Donc, ce que je peux conclure déjà pour l'instant, c'est qu'en fait, les récepteurs olfactifs forment des enhancers, donc se regroupent ensemble, okay, et que ça semble être, la question qui peut se poser, c'est maintenant, comment on va choisir parmi ces groupes d'énonceurs celui qui va être exprimé dans une cellule bien donnée. D'accord ? Donc cette figure ici, vous avez en fait une illustration assez parlante de ce qui se passe. Donc ici, vous avez un groupe de cellules qu'on a illustré, qu'on a purifié, qui exprime le gène OR16. D'accord ? Donc on a essayé de voir la même chose, mais uniquement avec les cellules qui expriment le gène R16. Et vous apercevez que le gène 16 interagit avec pratiquement chacune de ces lignes ici, représente l'un de ces 69 énonceosomes. Donc il y a très très fort contact entre le gène OR16 et chacun des énonceosomes. Un autre gène, OR17, en fait, a des interactions, mais ces interactions sont beaucoup plus faibles. Maintenant, si vous faites la même expérience avec des cellules qui sont séparées, qui expriment le gène OR17, on s'aperçoit que maintenant le gène OR17 a de très profondes interactions avec tous les énonceosomes, alors que maintenant le gène OR16 qui n'est pas exprimé, a des interactions qui sont beaucoup plus faibles. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qui doit se passer, c'est que lorsque vous avez le choix d'un tous ces énonceurs qui viennent ensemble, et de façon statistique, il n'y en a peut-être pas tous ensemble au même moment, mais à partir du moment où il y en a un qui va être exprimé, celui-là va être celui qui va interagir avec tous les autres énonceurs, et celui-là qui va avoir le plus de chances de s'exprimer. Donc, ce que le sample indiquait, c'est que la formation de ces énonceosomes est essentielle pour l'expression, la transcription de l'un de ces gènes olfactifs. Donc, en fait, il faut qu'il y ait ces énonceurs, et de plus ces énonceurs vont être gros, plus on va pouvoir choisir un des gènes qui va être exprimé là-dedans. Maintenant, non seulement ces énonceurs est suffisant, mais il est absolument nécessaire. Là, ici, les interactions entre ces différents énonceurs, okay, la partie droite. Et on peut faire la même chose avec un mutant, ce gène LDB1. Vous vous rappelez peut-être que le gène LDB1, c'est un facteur de transcription qui se lie à tous ces énonceurs dans tous les 69 récepteurs olfactifs. Si on fait une mutation qui empêche ce facteur de transcription de agir, vous n'avez plus la formation de ces énonceurs, il n'y a plus la formation des énonceosomes, et à ce moment-là, vous n'avez plus l'expression de ces gènes. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel que tous ces clusters se forment uniquement dû à la présence de l'énonceur de ces 69 énonceurs qui peuvent venir ensemble et à travers tous les chromosomes se relier l'un à l'autre. Donc on peut peut-être voir un petit peu ce qui se passe. C'est un schéma de François Spitz qui a publié récemment dans Nature une revue. On peut se voir au repos, donc avant que la différenciation du cœur n'existe. Vous avez donc tous ces gènes qui sont répartis sur le chromosome. Et lorsqu'il y a une maturation du système, vous avez un regroupement de tous ces énonceurs. Et d'une manière ou d'une autre, vous arrivez à avoir une sélection d'un des gènes qui va être choisi, qui va pouvoir être exprimé. Ce gène va à ce moment-là aller à la membrane, et en allant à la membrane, il va à ce moment-là essayer de réprimer l'expression de tous les autres gènes qui ne peuvent plus être exprimés. Donc un choix qui se fait de façon stochastique en mettant tout le monde ensemble, et on en prend un dans le lot. Okay ? Donc ici, ce que vous donne, c'est une idée un petit peu précise de comment, au niveau mécanisme, on peut arriver à comprendre comment un si grand nombre de gènes peuvent vraiment être choisis pour qu'un seul d'entre eux soit exprimé et comment ils peuvent avoir cette exclusion. Donc ça, c'est bien, mais ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'une fois qu'on a fait ce choix stochastique, comment ce choix stochastique va être amené au cerveau pour dire au cerveau « j'ai fait ce choix stochastique ». Et donc maintenant, vous devez savoir que je vais exprimer le récepteur qui est sensible à des alcools avec 3 carbones. Ou un aldéhyde qui a 5 carbones. Donc comment est-ce que cette information va être transmise au cerveau, puisqu'en fait le cerveau doit être connecté avec ses récepteurs olfactifs, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Je vous en ai parlé la semaine dernière, vous vous rappelez que ces récepteurs olfactifs qui sont exprimés au niveau de l'épithélium olfactif vont en fait envoyer des projections au niveau du centre du cerveau qui contrôle l'olfaction, okay, et donc ça va passer à travers l'os qui est au-dessus de notre cavité buccale, vont traverser ça et vont se projeter dans cette structure ici qui forme en fait des sortes de petites boules nerveuses qu'on appelle des glomérulus, des glomeruli, et ces glomérulus vont en fait recevoir l'information qui permet au cerveau de savoir exactement quel récepteur a été stimulé. Donc en fait, ce que vous avez ici, c'est cette structure du cerveau qui reçoit toute l'information en provenance des récepteurs olfactifs, et vous avez ici un signal. Et en fait, ce signal, c'est parce qu'en fait, on a uniquement marqué dans ce système-là un seul des récepteurs olfactifs. Donc en fait, tous les récepteurs olfactifs qui expriment un seul gène vont tous arriver à se projeter à une seule position bien précise au niveau de cette partie du cerveau. D'accord ? Donc, il semble qu'en fait, la règle qui se passe, c'est que si un récepteur olfactif décide d'exprimer un gène particulier, le gène A, tous les récepteurs qui prennent la même décision vont converger pour se projeter à cet endroit-là. D'accord ? Donc, reprenons tout ce que je viens de dire, 1400 choix ou 2800 choix, d'accord, qui permettent de traduire 1400 types de récepteurs olfactifs, d'accord. Ces récepteurs olfactifs vont tous, ceux qui prennent tous le même choix, vont tous se projeter à un endroit bien particulier dans le bulbe olfactif, d'accord. Ils vont tous aller au même endroit, donc cet endroit-là ici, d'accord. Et un autre, les ceux qui vont exprimer un autre gène vont exprimer ici, 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 ici. Donc vous allez avoir à peu près 1400 de ces petites blobs, ces petites structures glandulaires que vous avez dans le lobe olfactif. Et donc vous allez pouvoir avoir cet groupement de ces gènes. Donc peut-être c'est illustré de façon tout à fait magnifique par cette vieille expérience de Peter Monbarth et Richard Axel. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont introduit dans un gène particulier, un de ces 1400 gènes de récepteurs olfactifs, ils ont introduit, avec une séquence qui permet de lire, donc le récepteur n'est pas affecté, ils ont introduit l'AXZ, qui va donc permettre d'exprimer le gène lui-même, plus l'AXZ, et donc tous ceux qui, on ne peut pas prédire les séquelles, mais tous les récepteurs olfactifs, les cellules olfactives qui ont décidé d'exprimer ce gène P2, vont aussi exprimer l'AXZ. D'accord ? Et l'AXZ peut diffuser dans l'axone. Et donc, tout ça, vous avez l'épithélium olfactif. Vous apercevez que vous avez au hasard un certain nombre, un millier de cellules qui, chacune, vont prendre la même décision d'exprimer le gène P2. Et bien sûr, vous avez un autre millier de cellules qui vont exprimer le gène M50 ou le gène 17, ou le gène P1 ou le gène P3. Donc, ici, on ne visualise que le gène P2. Et on s'aperçoit que tous les récepteurs olfactifs qui expriment le gène P2 vont tous d'abord converger l'un avec l'autre, faire ces sortes de groupements de neurones, et vont tous converger, tous, un de ces glomérulus qui est ici dans le lobe olfactif de la souris. D'accord ? Donc, tous ceux qui expriment P2 vont exprimer là, et si on fait la même expérience avec P3, ils vont exprimer ici, ils vont se projeter ici, ils vont se projeter ici. D'accord ? Donc ici, il semble que d'une manière ou d'une autre, l'expression d'un récepteur olfactif déterminé permette à tous ces gènes de converger et d'aller dire au cerveau, OK, maintenant, cette structure ici, toutes les innervations qui vont dans P2, c'est ceux qui proviennent de ces récepteurs olfactifs qui sont sensibles à un alcool avec 4 carbones, par exemple. D'accord ? Donc, il semble qu'on a ce qu'on appelle une ligne, label line, c'est-à-dire qu'en fait, tout converge vers ce récepteur, ce lobe olfactif. Et donc, le lobe olfactif est une structure qui est bien déterminée, qui, contrairement à tout ce qui se passe au niveau de l'épithélium, est bien déterminé, bien structuré, puisqu'en fait, chaque partie de ce lobe olfactif est à même de répondre à une odeur donnée. Et en fait, d'un animal à l'autre, l'endroit où les récepteurs P2 se projettent est toujours à peu près au même endroit. Donc l'organisation globale du lobe olfactif est la même d'un animal à l'autre. D'accord ? Pourtant, elle provient de la formation de récepteurs olfactifs qui sont, eux, déterminés de façon tout à fait au hasard. Donc, comment peut-on arriver vers cette correspondance ? Comment on peut aller d'un système très stochastique vers un système très déterministe ici ? Et comment on arrive à connecter les deux ? En fait, vous apercevez que la réponse n'est pas encore bien claire, mais je vais vous aider donner quelques indications de comment on peut arriver à comprendre ce qui se passe. Donc, ce que je vous dis ici, c'est ce qui se passe au niveau du lobe olfactif de la souris. Une chose vraiment similaire se passe au niveau du lobe olfactif de la drosophile, où en fait vous avez cette illustration, un cerveau de drosophile qui est beaucoup, beaucoup plus petit, et vous avez au milieu de ce cerveau, ici ce qu'on appelle le lobe anténal, qui est en fait l'endroit où, de la même manière que chez la souris, tous les neurones qui expriment un gène particulier, il n'y en a que 40 chez la drosophile, un de ces 40 gènes vont se projeter et vont faire un de ces glomérulus qui est ici. la drosophile d'un animal très olfactif et très visuel, le centre visuel est ici, olfactif et visuel, donc une grande partie du cerveau est en fait consacrée à la détection ou l'interprétation des signaux olfactifs. Donc, c'est le lobe antennal, d'accord, parce qu'en fait, l'antenne est en fait le nez de la drosophile, d'accord. Et vous voyez ici que vous, si vous stimulez certains neurones, une certaine famille de neurones, soit ils projettent ici, soit ils projettent là. Donc vous avez ici une cartographie, une carte de topographique de tout le système olfactif où en fait chacun de ces récepteurs projette à un endroit bien déterminé. Donc encore là, vous avez une décision qui se fait un petit peu au hasard au niveau périphérique, mais au niveau central, une interprétation qui se fait de façon très déterministe où en fait chaque glomérulus est toujours à la même place. Ces glomérulus sont de taille différente. En fait, bien sûr, ceux qui sont les plus gros, ceux qui se répondent au sexe. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, d'accord ? Donc, en fait, on peut dire que donc chacun de ces glomérulus va répondre à un certain nombre de critères, certaines odeurs, ou peut-être certains produits naturels qu'on trouve dans la nature. On va essayer de comprendre un petit peu comment cela peut se faire. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que chaque produit naturel, pour une mouche, par exemple, une orange, c'est quelque chose de très précieux, puisqu'en fait, c'est là-dessus qu'elles vont pondre leurs œufs, ou un citron, une banane, ou une guinette, d'accord, va être en fait amené, c'est un composite de nombreuses odeurs, vont amener à la stimulation d'un certain nombre de ces glomérulus, d'accord, et le code de ces glomérulus va nous permettre de dire ça, c'est une orange, ça, c'est un citron, ça, c'est une banane, ça, c'est une guinette, ça, c'est quelque chose qui va vous tuer, d'accord. Donc, en fait, il y a un code combinatoire où, en fait, l'expression de la stimulation de chacun de ces glomérulus va nous dire un petit peu ce qui se passe au niveau extérieur. Ça, c'est chez la drosophile, il y a 40 glomérulus. Chez l'homme, il y en a 1400. Et donc, la combinatoire est en fait beaucoup plus large et nous permet de déterminer un très, très grand nombre d'odeurs. La question qui se pose, c'est comment en fait arrivons-nous à contrôler ce qui se passe ici. Donc, la question, c'est comment on peut arriver à avoir une connexion bien précise entre les récepteurs olfactifs qui sont déterminés de façon stochastique et leur cible qui va être normalement toujours à la même place, donc qui doit être de façon très déterministe. Comment se fait cette connexion? Il y a trois manières de le faire. Il peut se passer qu'en fait, il y a d'abord une détermination stochastique des récepteurs et que les glomérules sont là, mais ils sont un petit peu naïfs et qu'en fait, ils vont être instruits par les récepteurs olfactifs de devenir soit rouge, soit vert ou soit bleu. Il peut avoir l'opposé où en fait le champ réceptif, donc dans ce cas-là, ce serait le lobe olfactif, va être prédéterminé et qu'en fait celui-là va être naïf et que les récepteurs olfactifs vont être déterminés lorsqu'ils vont se connecter à ce genre de choses. Ou en fait ce qu'on peut avoir, c'est que les deux sont déterminés de façon au hasard et qu'en fait et en fait ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné ils vont être obligés de se connecter et que seuls ceux qui sont bien connectés vont par exemple pouvoir survivre. Et donc à la fin on va arriver à un système de connexion qui est bien précis où en fait les rouges vont toujours avec les rouges, les verts avec les verts et les bleus avec les bleus. Donc quels sont les modèles qui peuvent fonctionner dans notre système? D'après ce que je vous ai dit déjà, il semble que si en effet les récepteurs olfactifs prennent une décision stochastique, il est probable que ce modèle est beaucoup plus probable que celui-ci, puisqu'en fait, on sait que ça se fait de façon stochastique. Au niveau de chacun des récepteurs, la décision se fait de façon stochastique au niveau de la périphérie. Mais on sait aussi qu'en fait, le lobe olfactif est prédéterminé, puisque chacun des glomérulus est toujours à la même location, à la même place, au même endroit. Ça veut donc dire qu'il sait exactement ce qu'il va être. Donc en fait, ça c'est vrai, donc ce qui est proportionnellement probable, c'est qu'en fait, les deux sont vrais, et qu'en fait, chacun est déterminé de façon indépendantes et que d'une manière ou d'une autre, ils vont être obligés de se trouver de façon spécifique. La question, c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir se trouver de façon spécifique. Donc, ça ramène au problème de connectivité qu'on trouve dans le cerveau des animaux un petit peu supérieurs, c'est qu'en fait, on a un très, très grand nombre de neurones qui font un immense nombre de synapses et de savoir c'est comment toutes ces synapses peuvent être déterminées avec simplement les 25 000 gènes qui composent notre génome. Et n'oubliez pas que 25 000 gènes, c'est ce qui compose le génome d'un homme, et c'est aussi ce qui compose le génome d'un ver ou d'une drosophile. Donc le nombre de gènes n'a pas augmenté depuis qu'on a des animaux un petit peu complexes. Donc il faut arriver à se débrouiller avec ce petit nombre de gènes pour arriver à permettre toutes ces connectivités. Et notamment dans le cas des récepteurs olfactifs, comment on arrive à connecter 1400 gènes, cellules avec leur cible très précise dans le lobe olfactif. D'accord ? Donc il y a plusieurs possibles solutions possibles. On peut faire, en fait, il est possible que de la drosophile à l'homme, par exemple, on ait le même nombre de gènes, mais que ces gènes ont des spacings différentiels qui fait qu'en fait, on peut produire un plus grand nombre de protéines. C'est un petit peu vrai, mais c'est loin de pouvoir expliquer la solution. Il peut se passer qu'en fait, on peut avoir un nombre de combinaisons qui vont exister, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas déterminer chaque cellule avec un seul gène, mais avec une combinaison de gènes, et à ce moment-là, comme 25 000 gènes, on peut avoir quand même pas mal de combinaisons, peut-être que ça pourrait suffire. Ou on peut peut-être régler la quantité d'une protéine qui pourra dire si j'ai cette quantité de protéines, vous allez se lier ici, si elle a un peu plus, on va se lier ici, encore un peu plus, on va se lier ici. D'accord ? Ou bien alors, on peut laisser le système évoluer de façon stochastique et de voir un petit peu comment ça va se débrouiller, donner simplement des règles un petit peu générales et qu'à ce moment-là, on va voir un petit peu comment le système pourra se résoudre. Donc, donner simplement l'équation et l'équation va pouvoir être résolue par chacune de ces expériences. D'accord ? Donc, revenons à notre problème de récepteur olfactif chez la drosophile. Et donc, vous vous rappelez l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, que si vous exprimez le promoteur P2, donc le gène P2 va exprimer de façon stochastique, il va exprimer le gène, le récepteur olfactif P2, et on lui accroche en même temps l'AXZ, de telle sorte qu'il puisse exprimer l'AXZ, qu'on puisse le tracer au cours de son développement. Donc, vous apercevez que tous les récepteurs olfactifs qui expriment le gène P2 vont avec se converger vers un certain glomérulus qui est ici. Ils se collapsent l'un avec l'autre, et ils arrivent tous à avoir ici, d'accord ? Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire la même expérience, mais, comme vous le disiez avant, c'est d'enlever le récepteur olfactif, c'est-à-dire qu'on met uniquement l'AXZ et il n'y aura plus de séquence codante pour le récepteur olfactif. Et là, un résultat qui est assez important, c'est qu'en fait, les récepteurs olfactifs, maintenant, vont projeter un petit peu n'importe où. Ils vont choisir soit un glomérulus ici, soit ici, soit ici. Donc, le promoteur va contrôler l'expérience de l'AXZ. Il devrait normalement exprimer le récepteur P2, mais il va se converger, d'aller un petit peu partout. L'interprétation qu'on peut faire, c'est qu'en fait, la décision a été prise par ce promoteur d'être exprimé, mais il ne va pas pouvoir exprimer une protéine comme P2 ici, et donc il n'y aura pas de feedback entre cette protéine qui va permettre de réprimer tous les autres gènes. Donc, ça veut dire qu'un deuxième choix est permis, et donc un autre gène va être pris au hasard, et donc chacun des récepteurs va choisir un gène différent, et donc va projeter un glomérule différent. Donc l'interprétation, ça veut dire qu'en fait, la présence d'un récepteur olfactif est d'une part nécessaire pour pouvoir réprimer tous les autres, mais aussi va être nécessaire pour trouver en fait, la cible adéquate dans le lobe olfactif. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire la même expérience, mais ce qu'on va faire, même, c'est remplacer le gène P2 ici, avec le même promoteur P2, mais là on va lui mettre le gène M50, donc un autre gène récepteur olfactif qui va être sous le contrôle du promoteur P2. Donc tout ce que je vous ai raconté avant, comment tous venaient ensemble, tous ces silencers venaient ensemble, et qu'un gène est choisi, le gène qui va être choisi il va être le gène P2, mais au lieu d'exprimer le gène, la séquence codante P2, il va exprimer le gène M50, donc un autre gène olfactif. Et normalement, le gène olfactif M50, il devrait arriver à un autre glomérulus. Et en fait, on s'aperçoit que en fait, ça, donc c'est la même expérience que celle-là, sauf qu'on a remplacé ici le gène P2, on a rajouté M50 ici, et là, tous les récepteurs olfactifs étaient perdus dans le lobe olfactif. Ici, au contraire, ils vont tous se converger vers un seul endroit. Et cet endroit, ce n'est pas l'endroit où en fait, normalement P2 devrait se projeter. C'est en fait un endroit qui est plus proche de là où les cellules qui expriment le gène M50 devraient se projeter. Donc, en fait, ici, qu'on arrive à recoder la projection de ce gène vers un autre glomérulus, simplement en changeant la phase codante, le récepteur olfactif, la protéine qui va être produite par ce gène-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, le récepteur olfactif est suffisant pour permettre aux axones de converger vers un glomérulus. Donc, non seulement il est nécessaire, parce que si on ne l'a pas, ça ne se fait pas, mais il est aussi suffisant, parce que si vous en mettez un autre à la place, ils vont se projeter à un endroit différent. Maintenant, les choses ne sont pas tout à fait si simples, puisqu'en fait, les auteurs on fait un certain nombre de c'est surtout le travail de Peter Mombas et Richard Axel, on fait un nombre de convergences. Par exemple, le gène M12 projette ici, le gène M71 projette ici, mais si vous prenez le gène, le promoteur M71 qui dirige l'expression de P2, ils ne vont ni se projeter à... Et P2 serait ici. En fait, on a une projection intermédiaire entre le promoteur M71 et la phase codante P2. On s'aperçoit qu'il y a une projection entre les deux. De la manière, si on prend le promoteur de M12 qui contrôle l'expression de P2, il ne projette pas du tout, pas exactement à P2, il projette un petit peu proche de P2, mais en tout cas loin de P12. De la manière ici, on peut s'apercevoir si vous avez P3 et P2, et que vous avez une chimère entre P3 qui dirige P2, ça va se projeter près de P3, et entre une chimère entre M50 et P2, on s'aperçoit que c'est entre les deux aussi. Donc en fait, la phase codante des récepteurs est importante pour donner l'instruction de où projeter, mais ce n'est certainement pas le seul critère, puisqu'en fait, on n'arrive pas à avoir retargeting parfaite, où en fait, les gènes, les cellules ne vont pas exactement aller où on les attend, ils vont être dans une situation intermédiaire. Donc en fait, les neurones semblent être un petit peu confus, ils ne savent pas où aller, ils doivent aller là, on leur dit d'aller là, ils vont, peut-être qu'ils vont là, ils vont entre les deux. Okay. Donc tout ça, ça nous dit que c'est qu'en fait, les récepteurs olfactifs ont une instruction qui est stochastique au départ. Ils expriment un récepteur à leur surface. Ce récepteur joue un rôle important pour les avoir ciblés dans le lobe olfactif. La question qu'on peut se poser, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de leur cible synaptique? Est-ce que la présence de leur cible postsynaptique est importante pour pouvoir amener à ce qu'ils soient ciblés ici? Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire des expériences où, en fait, on peut poser cette question. On peut dire, qu'est-ce qui se passe maintenant si on supprime les cibles de ce récepteur olfactif, d'accord? Donc, en fait, ça, c'est des expériences qui bénéficient de deux mutations, TBR1 et DLX1 and 2. En fait, ça, c'est une souris où, en fait, il n'y a pas d'agglomérules. Les neurones qui vont prendre l'information des récepteurs olfactifs pour l'amener par partie plus supérieure du cerveau, ne sont plus là. Il n'y a plus donc de cible pour les récepteurs olfactifs. Malgré tout, on a quand même la concentration entre glomérules. Donc en fait, les récepteurs olfactifs, malgré tout, vont trouver un endroit, même si leur cible n'est pas là. On peut voir ça de la même manière. DLX1, c'est en fait un mutant où il n'y a pas de récepteur d'interneurones. Donc on pourrait imaginer que c'est des interneurones qui faisaient ça. Mais non, même si vous enlevez les interneurones, il y a toujours les glomérulus qui sont en fait présents là-dedans. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que les récepteurs olfactifs prennent une décision au hasard, ils expriment un récepteur, ce récepteur va les instruire d'aller projeter à un endroit bien précis, même si leur cible n'est pas là. Donc vous voyez qu'un petit peu le dilemme, puisqu'on n'arrive pas à comprendre un peu comment ça se fait. Maintenant, il y a une règle que les neurobiologistes aiment utiliser qui dit que, en fait, une manière de résoudre le système, c'est que ça dépend de leur activité. C'est-à-dire qu'en fait, les récepteurs olfactifs, peut-être qu'ils répondent particulièrement bien à une odeur précise et que, d'une manière ou d'une autre, si tous les récepteurs qui répondent en même moment à la même odeur, on va pouvoir dire on est ensemble, on va se regrouper et on va aller dans un endroit bien précis. Ce qu'on appelle qui wires together, fires together, wires together. Si on va avoir des actions potentielles en même temps, on va pouvoir aller se connecter au même endroit. C'est un petit peu mystérieux comme système, mais on peut tester si c'est vrai. Donc ce qu'on peut faire, c'est dire, OK, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va empêcher ces récepteurs olfactifs de répondre à des odeurs en les rendant silencieux, donc les empêchant de... Donc ça, c'est une mutation qui est en fait un cyclic GMP, donc c'est en fait le médiateur de l'activité, c'est-à-dire que les récepteurs n'ont personne à qui parler, donc ils se lient à l'odeur, mais cette odeur ne peut pas se traduire, ces protéines G ne peuvent pas arriver à amener une dépolarisation, une activation du récepteur. Donc ces récepteurs, même s'ils se lient à une odeur, ne peuvent pas être actifs. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit que même si on a un mutant qui est pour cette activité, donc les récepteurs olfactifs sont là, mais ils sont inactifs, ils arrivent malgré tout à trouver leur cible et trouver où aller. Donc ça veut dire que l'activité n'est pas importante. Donc là, on se trouve un petit peu un dilemme, où on se dit qu'en fait, on ne comprend pas comment ça se passait. On sait que les récepteurs sont importants, leurs cibles n'ont pas l'air d'être importantes, leur activité n'a pas l'air d'être importante. Comment est-ce qu'un récepteur, il y en a 1400, va pouvoir dire « tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là ». Quelle va être la cible qu'ils vont trouver pour aller à un endroit bien déterminé? Et la question se pose toujours, et même si des gens très bien ont travaillé là-dessus depuis une vingtaine d'années, on n'arrive toujours pas à comprendre la question, donc je laisse la réponse ouverte, je ne sais pas un petit peu ce qui se passe là-dedans. Okay. Donc, ce que je veux dire à ce moment-là, c'est qu'en fait, vous avez donc ce système-là, où il y a une détermination des récepteurs olfactifs de façon stochastique, et peut-être un field, des cibles qui sont un petit peu naïves. Ce système-là n'a pas l'air important, parce que, en fait, dans ce cas-là, même si on enlève ces cibles, le système, malgré tout, arrive à se produire. Donc, certainement, il y a un système de coordination où, en fait, on a les gènes, les récepteurs olfactifs, qui vont trouver leur cible, et d'une manière ou d'une autre, s'ils trouvent leur cible, ils vont pouvoir se connecter et arriver à déterminer comment se connecter. Tout ça, c'est bien. Donc, on arrive à avoir... On part d'un désordre total, une grande entropie, où, en fait, vous avez le grand désordre, tout va en fait d'être stochastique. On va le concentrer pour un point bien déterminé, où, en fait, vous avez ce lobe olfactif qui est bien déterminé, où chacune des odeurs est représentée d'une manière bien précise. Maintenant, que va faire la nature avec cette information, avec cette carte topographique bien précise, où chacune des parties du lobe olfactif est capable de savoir exactement quelle odeur il doit répondre. Où est-ce que ce système va? En fait, chez les vertébrés, on n'en sait pas trop rien, parce que c'est un petit peu compliqué, mais en fait, on sait que ça ressemble énormément à ce qui se passe au niveau de la drosophile, et je vais essayer de vous donner maintenant quelques instructions au niveau de ce qui se passe au niveau de la drosophile. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe ici lorsque ces glomérulus qui sont bien, bien déterminés, bien précisément déterminés, vont emmener l'information au niveau supérieur du cerveau. D'accord ? Donc j'essaie de passer de la drosophile à la souris, de la souris à la drosophile, parce qu'en fait les systèmes sont vraiment très similaires. L'un était beaucoup plus simple que l'autre, et pourtant la puissance génétique de la souris a permis de faire des avancées très importantes au niveau de la compréhension de ces mécanismes chez la souris, mais là on s'arrête un petit peu, on va donc passer à la drosophile. Donc l'idée qu'on pourrait avoir, c'est que vous avez ces glomérulus qui sont bien déterminés au niveau ça s'appelle le lobe anténal chez la drosophile. Donc chaque odeur est bien représentée par un de ces 40 glomérulus qu'on a ici. Mais comment est-ce que ça va être traduit au niveau du cerveau? L'idée la plus simple serait qu'en fait, ce qui se passe, c'est que chacun de ces glomérulus a un neurone qui va se projeter au niveau du cerveau supérieur. Ça s'appelle des projection neurons. Ces projection neurons vont se projeter dans des endroits bien précis qui représentent, qui gardent l'information topographique, où en fait, cette représentation du monde chimique dans le lobe anténal va continuer au niveau des étapes supérieures. En fait, ce que je vais vous dire, ce n'est pas du tout ce qui se passe, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que même si on a passé de la stochasticité à un déterminisme bien précis, une détermination bien précise, à la prochaine étape, on va recréer de la stochasticité, puisqu'en fait, on va avoir une projection de ce type où, en fait, chacun des glomérulus ne va pas se projeter à un domaine bien précis de la partie supérieure du cerveau, mais en fait, va se projeter de façon globale à toute une série au hasard. Donc, on va du hasard au déterminisme et de nouveau au hasard. Comment est-ce qu'on peut montrer ça? Donc, on va de nouveau retourner à la drosophile. Vous vous rappelez que la drosophile a ses antennes. Ces antennes expriment 40 récepteurs olfactifs, et ces récepteurs olfactifs vont se projeter à un des glomérulus. Tous ceux qui expriment un récepteur olfactif donné vont se projeter à un des glomérulus ici. Donc ça, c'est l'antenne qui vire vers nous. Donc il y a deux antennes et ils se projettent de chaque côté puisqu'en fait, les deux antennes sont symétriques. Donc un des glomérulus va recevoir l'information d'une des familles de récepteurs olfactifs qui sont au niveau de l'antenne. D'accord ? Maintenant, cette information va être prise en charge par des gènes par des cellules qui, en fait, sont des cellules qui vont innerver ce glomérulus, donc capturer l'information, prendre l'information qui provient des récepteurs olfactifs et l'amener à des centres supérieurs. Ce sont ces neurones rouges qu'on appelle les projection neurons, et ils prennent l'information de là, donc ils sont postsynaptiques dans le glomérulus, donc le corps cellulaire ici, ils vont l'informer avec un axone, et on projette un axone dans deux régions, qu'on appelle la corne latérale, mais surtout ce qu'on appelle le motion body. Le motion body, c'est cette structure qui est en fait le cerveau, le cortex, si on peut dire, de la mouche, puisqu'en fait, c'est le système qui permet à la mouche de s'adapter à différentes circonstances biologiques. C'est en fait le centre d'apprentissage et de la drosophile. Donc l'information vient l'antenne, elle va au lobe antennal, elle est prise en charge par ces projection neurons, et elle va projeter au niveau de ce motion body. Et c'est un petit peu fou, c'est pas bien précis, parce qu'en fait, elle ne va pas se projeter à une partie précise du motion body, elle va se répartir de façon globale au niveau des motion body. Donc, il y a 40 glomérules ici. Le motion body est composé avec 2000 cellules, qu'on appelle des Kenyon cells. Okay. Donc, il y a 2000 cellules là-dedans qui vont se projeter de façon bien précise, et ça va permettre une organisation qui est très, très bien connue, en particulier du haut travail de Vanessa Root à Rockefeller, qui est bien connue comment cette information qui provient des récepteurs olfactifs peut s'associer avec un choc ou avec un quelque chose de positif, de pouvoir permettre à la chlorophylle de dire c'est quelque chose que j'aime ou c'est quelque chose que j'aime pas. Donc il n'y a pas de valence au départ, mais on peut créer une valence simplement en associant une odeur avec un côté positif ou un côté négatif, et ça se passe au niveau du motion body. Donc, on peut regarder ce qui se passe, comment en fait ces projection neurons vont arriver à toucher ces Kenyon cells, comment elles vont contacter ces Kenyon cells. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'une part regarder un petit peu ces Kenyon cells, on regarde au motion body, il y a 2000 cellules là, et on va regarder si on stimule la mouche avec une odeur, donc on amène une odeur ici, on regarde à travers son cerveau ce qui se passe au niveau du motion body, on va se dire qu'est-ce qui se passe, quelles sont les cellules qui sont stimulées là. Et là, le résultat est un petit peu surprenant, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en stimulant avec différentes odeurs, vous avez ici toutes ces formules chimiques, et qu'en fait, on a tout un nombre de parmi ces 2000 cellules, il y a toujours un certain nombre qui sont en train d'être excitées, donc ça, c'est par de l'imagerie avec du calcium, donc chacune des cellules est active, et on s'aperçoit que d'une odeur à une autre, à une autre, à une autre, il y a un certain nombre de cellules de Kenyon qui sont stimulées, elles ne sont pas précisément à un endroit donné. Quelquefois, la même cellule peut être stimulée par deux odeurs complètement différentes, et en fait, il n'y a aucune règle qu'on puisse comprendre. En fait, chacune de ces cellules, de Kenyon cells du motion body, répond à un certain nombre d'odeurs sans qu'on puisse prédire quel type d'odeur elle va être associée. Donc, en fait, on peut soit se concentrer sur une seule de ces 2000 cellules, voir un petit peu chacune de ces 2000 cellules, qu'est-ce qu'elle fait, en fait, à quel type de projection neural est-elle connectée. Donc, vous avez toujours l'imagerie magnifique qu'on peut trouver chez la drosophile. Vous avez une cellule de ces Kenyon cells, une de ces 2000 cellules de motion body. Et on pourrait imaginer que, par exemple, elle répond uniquement à un certain type d'odeur, mais ce n'est pas du tout ce qu'on trouve. En fait, ce n'est pas du tout ce qu'on trouve, parce qu'en fait, on trouve que chacune de ces arborisations de cette simple cellule répond à un certain nombre d'odeurs, donc est connectée à différents projection neurons. Donc, en fait, ces cellules répondent de façon stochastique et on ne peut pas prédire quel type d'information va être connectée à un certain nombre d'odeurs. Donc, cellule va peut-être répondre à cette odeur-là, et puis une autre cellule va répondre à ça, et une autre cellule va répondre à ça. Donc, en fait, chacune de ces motion body répond à cette arborisation, et cette arborisation reçoit les informations en provenance de cette projection neuron qui provient de sept glomérulus différents. Donc, en fait, on regroupe l'information sans qu'on puisse trouver une logique bien précise. Donc, on a créé l'information de façon stochastique, on l'a regroupé dans une carte bien précise et on la redistribue au niveau de ces motion body. Et en fait, apparemment, c'est pour les gens qui font de la neurobiologie systémique, en fait, c'est un moyen de pouvoir déduire quel type d'odeur c'est. Et je voudrais peut-être, en fait, voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la souris, parce que chez la souris, on a des cellules qui sont un petit peu similaires à celles de ces cellules de motion body, qui sont ces cortical pyramidal neurons, donc des neurones dans la partie du cerveau qui traite l'information olfactive, et chacune reçoit 10 000 stimulus, et donc, en fait, ces 10 000 stimulus doivent correspondre aussi peut-être à des stimulus qui proviennent de ces 1400 glomérulus qui sont dans le lobe olfactif de la souris. Donc, de façon similaire, on s'aperçoit qu'on regroupe toutes ces informations un petit peu au hasard, et le système va pouvoir permettre de résoudre le système et de trouver un petit peu de quelle manière on a une information. Donc, en fait, en gros, ces cellules de Kenyon reçoivent des informations en provenance des différentes odeurs, ces différents glomérulus qui proviennent de ces différentes odeurs, et d'une manière ou d'une autre, le système est capable de trouver ça et de comprendre ce qui se passe. En fait, Sophie Caron, qui était à l'époque dans le laboratoire de Richard Axel, a analysé un petit peu ce qui se passait au niveau de donc ça, c'est les projection neurons, donc c'est les 40 projection neurons, les 40 odeurs qui sont capables d'être. Et ça, c'est un certain nombre de Kenyon cells. Vous apercevez que chacune des odeurs stimule au hasard un certain nombre de Kenyon cells sans qu'on puisse prédire lesquelles. et que la même quignon de sel peut être stimulée par différentes odeurs. Donc en fait, un système complètement aléatoire et en fait qui apparemment est le meilleur système pour pouvoir arriver à sortir un petit peu l'information, de déterminer l'information, de trouver un petit peu quelles odeurs ont été trouvées. Okay. Donc ce que je viens de vous dire ici, c'est que on a une compréhension précise de ce qui se passe au niveau des mécanismes qui permettent à une décision d'être prise au niveau périphérique de façon stochastique, comment cette information stochastique est malgré tout regroupée dans ces glomérulus et comment ensuite le système est traité au niveau de l'information pour pouvoir arriver à comprendre un petit peu et regrouper, faire une combinatoire pour de déterminer un vrai très grand nombre d'odeurs qui permet donc au système de se retrouver. C'est le système olfactif qui est bien compliqué puisqu'en fait il y a un très grand nombre d'odeurs, 40 chez l'ardrosophile, 1600, 1700 chez le chien. C'est toujours malgré très compliqué. Et donc, est-ce qu'on peut trouver, et peut arriver à trouver les mêmes règles dans un système qui serait beaucoup plus simple? La semaine dernière, je vous ai parlé d'un autre système stochastique qui est en fait un système stochastique qui est en fait celui de l'homme et celui de la rétine humaine. Dans la rétine humaine, pour des questions d'histoire que je vous ai décrites ou en fait pour des questions de duplication de gènes, en fait, il se trouve que les cônes qui sont capables de déterminer la vision des couleurs sont distribués dans la rétine humaine de façon stochastique, avec en de l'ordre de 7% de cônes bleus et 25 à 30% de vert et 65% de rouge. Mais d'un individu à l'autre, ça varie énormément. Ou sur certains individus, les 7% sont à peu près toujours conservés, mais le rapport entre les verts et les rouges peut varier énormément d'un individu à l'autre. On comprend relativement bien comment ça se fait, c'est la position des gènes dans le chromosome. Et donc, ça nous permet d'avoir une vision trichromatique, alors que tous les autres invertébrés et tous les autres mammifères sont en fait dichromates ou ne voient pas les couleurs. Donc, ça nous permet de voir ça grâce à ce système stochastique. Bien sûr, je vous ai dit la semaine dernière comment on pouvait essayer d'analyser ces systèmes stochastiques chez l'homme en utilisant ces organoïdes. Et je vais peut-être vous faire référence au travail, au cours de Denis Duboul, qui regarde un petit peu ces organoïdes, le fonctionnement des organoïdes. Je pense que demain, il va vous parler un petit peu de la même chose, des organoïdes de rétine, où en fait, on peut essayer de comprendre comment un organoïde humain, comment on peut comprendre comment une rétine humaine peut se développer, alors que bien sûr, si on veut essayer de travailler chez l'homme, c'est pratiquement impossible. Donc en faisant pousser des rétines dans des tubes à essai, on arrive à comprendre au moins en partie comment ce système peut se développer. On n'a pas choisi de travailler sur la rétine humaine, on a choisi de travailler sur l'œil de drosophile, d'accord, qui en fait a aussi un choix stochastique. En fait, dans l'œil de drosophile, vous avez donc une comparaison qui se fait entre deux types de cônes, c'est comme les cônes humains, c'est ce qu'on appelle R7 et R8. Un exprime un récepteur qui est sensible aux UV ou aux verts, et donc en fait il y a une comparaison entre UV et verts. Mais un autre système, dans d'autres somatidies, dans d'autres yeux individuels, vous avez une comparaison entre le UV et le bleu. Donc on avait deux types de comparaisons, UV bleu ou UV vert. Et si on regarde l'expression des rhodopsines, qui sont les pigments, les photopigments qui sont sensibles au vert ou au bleu, ils sont, comme dans la rétine humaine, ils sont distribués de façon stochastique, avec à peu près 35% de bleu et 65% de vert. Et là encore, on ne peut pas déterminer si ce photorécepteur, lorsqu'il est né, il va devenir bleu ou il va devenir vert. Il est complètement stochastique, d'accord ? Donc on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Ça, c'est vrai au niveau du bleu et du vert, c'est aussi vrai au niveau du R7, des deux types de UV, 35%, 65%. Donc ça fait deux redistributions stochastiques. Mais en fait, il n'y a pas deux distributions, il n'y en a qu'une seule, puisqu'en fait, il y a toujours une correspondance, ça c'est deux rétines différentes, il y a toujours une correspondance entre le rhodopsine 3 et rhodopsine, donc le UV est bleu et l'autre UV est vert. Donc c'est toujours la même chose qui se passe. Donc en fait, il y a toujours uniquement deux types, trois, donc il y a soit ça, soit ce type, soit ce type. Vous n'avez jamais rhodopsine 4 avec rhodopsine 5, vous n'avez jamais rhodopsine 3 avec rhodopsine 6, d'accord ? Donc un choix qui se fait, et en fait, on sait que ce choix est fait de cette manière-là, parce qu'en fait, le choix se fait dans cette cellule ici, dans cette cellule qui exprime rhodopsine 4, puisqu'en fait, très tôt au cours du développement, vous avez les 8 cellules ici qui vont devenir les 8 photorécepteurs. Deux de centre elles vont devenir les cônes. Et une de celles-là exprime ce gène qu'on appelle spineless, qui est un facteur de transcription, qui est exprimé dans la cellule RC. Donc, il est exprimé dans cette cellule-là. D'accord ? Dans cette cellule-là. Mais il n'est pas exprimé dans cette cellule-là. Dans celui-là et pas dans celle-là. C'est-à-dire qu'il est exprimé de façon stochastique ou dans cette cellule-là et pas dans celle-là. pas dans celle-là, mais dans celui-là. D'accord ? Donc il y a un facteur de transcription qui, très tôt au cours du développement, est exprimé spécifiquement dans un sous-ensemble des cellules R7 qui correspond en gros au pourcentage, aux 65% qui vont exprimer la rhodopsine 4. Donc, bien sûr. Donc, en fait, on a une expression dans ces cellules-là, les rouges, cellules rouges ici, d'accord ? Et pas dans les bleus. Si vous avez une mutation uniquement dans l'œil, c'est un gène qui est létal, vous enlevez uniquement ce gène dans l'œil, tous les photorécepteurs vont devenir de la famille des bleus, de rhodopsine 3. Et si vous forcez l'expression dans ces cellules-là, tout le monde va devenir de rhodopsine 4. Donc, en fait, c'est un gène qui est nécessaire et suffisant pour contrôler l'expression au hasard de ces rhodopsines. Donc, en fait, les rhodopsines ne font qu'obéir à ce qui se passe au niveau de ce gène Spinel S. Et ce gène Spinel S, je vous en ai parlé pas mal la semaine dernière, est capable de contrôler tout ce qui se passe au niveau de ce système. Donc, à la fin, ce que vous avez, c'est deux distributions stochastiques des photorécepteurs, soit R7, soit R8, avec une distribution de 35%, 65%, d'accord, qui permet de déterminer que, en fait, le gène Spinel est exprimé ici, d'accord, et il va... J'ai encore fait une erreur que je n'ai pas corrigée. Donc, en fait, il est exprimé en fait, dans le rhodopsine 4. Et si vous avez au Spinel, vous exprimez rhodopsine 4. Si vous n'avez pas, vous exprimez rhodopsine 3. Et ça va être un signal qui va instruire les cellules en aval d'exprimer soit rhodopsine 5, soit rhodopsine 6. Donc, d'accord. Donc, deux types de individuels, soit rhodopsine 4, rhodopsine 6, soit rhodopsine 3, rhodopsine 5. En fait, il y a un troisième type de comparaison. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'œil compare entre UV et bleu, UV et vert, et donc va pouvoir se comparer soit des longueurs d'onde courtes, soit des longueurs longues, pour arriver à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du spectre global d'information du système visuel autour de lui. Maintenant, il y a une autre comparaison qui se fait, ou en fait, qui se fait uniquement en la partie dorsale de l'œil, celle qui fait face au ciel, où en fait, les deux cellules-ci expriment rhodopsine 3, s'expriment uniquement de l'UV. Donc, quel est l'intérêt de comparer l'UV avec l'UV, puisqu'en fait, c'est la même chose. En fait, ce qui se passe, c'est que cette région ici de l'œil qui fait face au soleil compare UV-UV, mais en fait, les photorécepteurs, pour des raisons de morphologie, ont des microvilli qui sont soit dans ce sens-là pour les cellules R7, soit dans ce sens-là pour les cellules R8. Et en fait, ça fait deux filtres polarisants qui sont orthogonaux l'un à l'autre. Et qu'en fait, cette partie du cerveau de l'œil qui est ici sert en fait à non pas à comparer les couleurs, mais à comparer la lumière de polarisation. Donc, en fait, ça sert à amener l'animal à savoir quel est le vecteur de polarisation qui lui permet de savoir où est le soleil, même quand le soleil n'est pas présent. Je suis sûr que vous avez fait des... Vous rappelez, quand vous faites des photos, vous tournez votre filtre polarisant, vous pouvez éteindre la lumière qui se reflète sur l'eau, qui est une lumière polarisée. Les mouches font un petit peu pareil. C'est peut-être pas très important pour une mouche, c'est important pour un papillon. Par exemple, les Monarch Butterflies qui migrent du Canada au Mexique. Même un jour de gris, ils sont capables de naviguer parce qu'en fait, ils sont capables de savoir quelle est la lumière de polarisée grâce à ce système qui dessine. D'accord ? Donc, vous avez trois types de comparaisons qui se font au niveau de l'œil. 35% dans ce manière-là, 170% et une toute petite partie à la partie dorsale uniquement qui est capable de voir la lumière polarisée. D'accord ? Donc, une distribution stochastique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'étape prochaine ? C'est-à-dire, en fait, comment vont ces informations stochastiques être propagés en aval au niveau du cerveau, des lobes optiques qui vont traiter l'information qui provient de l'œil. Donc on appelle ces choses-là yellow et pale. Okay, yellow et pale, c'est parce qu'il y a une fluorescence qu'on peut trouver qui avait été déterminée il y a très longtemps par un de mes collègues de Marseille, Nicolas Franceschini. En fait, il y a deux types donc, de yellow et pale, donc on les appelle Y et P, d'accord. Et donc, est-ce qu'il y aura des cellules postsynaptiques qui vont être de type Y ou de type P, et comment elle va être déterminée, et comment est-ce que cette coordination va pouvoir se faire. Donc, c'est la question qu'on peut se poser, et vous allez voir que cette fois-ci, on a compris un petit peu comment ces systèmes fonctionnaient. Okay ? Donc, quels sont les mécanismes de cette coordination ? Donc, la question qui se peut se poser d'abord, c'est quelles sont, en effet, les cibles de ces cellules R7 soit de type P, soit de type Y, quels sont ces types de cellules. Okay. Donc, il y a une cellule qu'on appelle DM8, qui est une très belle cellule qui en fait, a cette forme qui va en fait se connecter. Donc, vous avez ici en rouge les photorécepteurs R8, les photorécepteurs R7 qui se projettent dans le cerveau. Donc, ils viennent de la rétine, ils se projettent dans le lobe optique. Vous avez les cellules R7 qui se terminent ici, les cellules R8. Et vous apercevez que vous avez une cellule qui est très large, qui se connecte à une quinzaine de terminaisons de photo R7, mais qui a une préférence très nette pour l'un des photorécepteurs R7, puisqu'il y a en fait ces arborisations qui remontent et qui font de très nombreuses synapses. D'accord ? Donc la question, c'est qu'en fait, c'est une cible de R7, et que cette cible de R7 va avant tout avoir ce qu'on appelle home colon, donc une colonne préférentielle, et qu'ensuite, il va comparer avec tout ce qui se passe autour. Donc c'est un système, pour ceux qui connaissent un peu la neurobulus, c'est un système on-off, où en fait, on compare le système central avec toute la périphérie. Comme je vous le disais, il y a deux types de cellules R7, celles qui viennent, qui sont P et celles qui sont Y, est-ce qu'il y a deux types de cellules DM8 ? Donc la question qu'on peut se poser, maintenant de façon beaucoup plus précise que dans le système olfactif, c'est qu'on a soit Y, soit P, soit ces cellules R7 qui proviennent de la zone margine de l'œil, qui vont peut-être trouver des cellules DM8 naïves et qui vont les spécifier comme être des cellules DM8, Y, P ou DRA, ou bien alors c'est le contraire, peut-être que ces cellules DM8 sont déjà préspécifiées et vont spécifier les cellules photorécepteurs, ou bien alors il y a une coordination, en fait les deux types de cellules existent et d'une manière ou d'une autre elles vont se coordonner afin d'arriver à avoir cette perfect matching entre les cellules R7 et les cellules DM8. Mais la question qui se pose d'abord, c'est qu'en effet, y a-t-il différents types de cellules DM8 de type Y, P et DRA ? Première chose, c'est qu'il y a quelques années, un de mes collègues à Caltech, Kaizin, a trouvé en fait que dans une des sous-populations de cellules R7 est exprimée une protéine qui s'appelle DPR11. Cette cellule DPR11 est très intéressante parce qu'en fait, c'est une molécule d'adhésion très particulière. C'est une molécule d'adhésion très particulière qui sont exprimées uniquement dans un sous-ensemble des cellules R7, dans celle-là, celle-là et celle-là, et pas dans les autres, d'accord ? En fait, très précisément, est exprimé dans les cellules R7 qui expriment Spineless, le gène qui déterminait de façon stochastique l'expression de certains types de rhodopsines. Donc le gène Spineless qui est exprimé ici, 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 correspond très précisément à l'expression de ce gène DPR11. Et ce gène DPR11 est un gène qui est de fait très intéressant pour nous, puisqu'en fait, c'est un gène qui fait partie d'une grande famille de protéines d'adhésion, qui sont des protéines qui donc DPR1, 2, 3, qui vont se lier très spécifiquement à une famille de récepteurs. Encore, quand je dis récepteurs, je dirais des cognates. En fait, c'est des molécules qui s'assemblent, qu'on appelle des DIP. D'accord, et vous avez toute cette coordination qui existe entre ces DIP et ces DPR, où en fait, vous allez voir par exemple que DPR11, celui dont je vous parlais, va se lier spécifiquement à DIP gamma, qui est en fait une molécule aussi d'adhésion, qui va spécifiquement se lier. Et toutes les autres ont une combinatoire assez complexe. Donc, en fait, ce que je dis, c'est que DPR11, qui a deux domaines immunoglobine ici, attachés au récepteur R7, va se lier à une molécule DIP gamma qui peut-être va être exprimée dans la cible des gènes R7 qui expriment DPR11. Il y a trois immunoglobines. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'en fait, il y a une correspondance entre DPR11 et DIP gamma ? Donc, en fait, peut-être qu'il y aurait une liaison entre ce DPR11 qui est exprimé uniquement dans un des sous-ensembles des cellules R7 qui pourrait en fait se connecter à leur cible, par exemple dans les cellules DM8. Donc on peut regarder à DIP gamma dans les cellules DM8 et on s'aperçoit qu'en fait, en effet, DIP gamma est exprimé dans les cellules DM8. Vous les rappelez, c'est celui qui a ces ongles d'arborisation, d'accord ? Ongles d'arborisation, mais pas dans toutes les DM8, uniquement dans un sous-ensemble des DM8. Et en fait, si on s'aperçoit ce qui se passe, c'est que les DM8 qui expriment DIP gamma correspondent exactement à leur colonne centrale et toujours associée avec un photorécepteur R7 qui exprime la DPR11. Donc en fait, il y a une complémentarité totale entre les cellules R7 qui expriment DPR11 et leur cible qui exprime DIP gamma. D'accord ? Et par défaut, donc vous avez en fait donc le rhodopsine 4 qui exprime l'équivalent de DPR11 qui va être vraiment sur cette colonne centrale et les autres, celles qui n'expriment pas DIP gamma, d'accord, vont être, au contraire se lier à leur centre, à ceux qui n'ont pas l'expression de DPR11 d'accord. Donc en fait il y a deux populations de DIP gamma, une qui exprime DIP gamma, l'autre qui n'exprime pas DIP gamma. Il y a deux populations de R7, ceux qui expriment DPR11, ceux qui n'expriment pas DPR11, et il y a un parfait coïncidence entre les deux types. D'accord ? Donc, Ce qu'on peut faire, c'est, et j'ai oublié de le mentionner, il y a aussi un troisième type de DM8 qui en fait n'exprime ni l'un ni l'autre et qu'en fait, qui est ceux qui se lient uniquement à la partie dorsale, ceux qui sont en train de traiter l'information qui provient de la lumière polarisée. Donc en fait, il semble que l'on ait dans l'œil une distribution stochastique de ces deux types qu'on appelle yellow and pale de photorécepteurs R7. Il y a ensuite ceux qui sont de la partie dorsale et vous avez trois types de DM8, les DM8 qui expriment deep gamma, ceux qui n'expriment pas deep gamma et ceux qui sont uniquement à la partie postérieure. Comment est-ce que cette coordination peut se faire? Donc, pour commencer, ce qu'on comprend ça, ce qu'on essaie de faire, c'est de modifier le rapport stochastique qu'il y a au niveau de l'œil. Et on peut faire ça en changeant le rapport, l'expression des gènes du système de stochastique, donc de changer le rapport du système stochastique. D'accord? Mais d'une part, ce qu'on peut faire d'abord, c'est de comprendre d'où proviennent ces cellules DM8 qui sont les cibles des cellules R7. Donc d'où proviennent ces cellules? Est-ce qu'elles sont prédéterminées ou est-ce qu'elles sont déterminées uniquement lorsqu'on va avoir les cellules R7 qui vont les innerver? Donc ce qu'on peut dire, c'est où est-ce que les cellules DM8 qui expriment DIG gamma sont présentes? Mais DIG gamma, ce n'est pas uniquement exprimé dans cellules DM8, c'est aussi exprimé dans d'autres cellules. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que nos cellules DIM8 expriment non seulement DIP gamma, ils expriment aussi deux autres marqueurs qu'on appelle TJ et DAC. Et donc, uniquement les cellules qui expriment TJ, DAC et DIP gamma sont uniquement ces types de cellules qui sont ici. Donc, ça, ce sont les cellules qu'on sait sont des DIM8 et qui expriment DIP gamma. Et elles sont spécifiées très tôt au cours du développement, bien avant que les photorécepteurs n'arrivent. Maintenant, à côté, il y a d'autres cellules qui ont les mêmes spécifications par TG et DAC, qui sont deux facteurs de transcription qui marquent les cellules DM8, mais n'en expriment pas DIP gamma. Donc on peut imaginer qu'en fait, il y a deux types de DM8, les DIP gamma, DIP gamma qui sont ici, les DM8 non DIP gamma qui sont ici, et celles qui proviennent de la dorsal margin, qui sont ici à la partie dorsale ici. Donc on arrive à voir que très tôt au cours du développement, bien avant l'innervation, on a déjà déterminé trois types de cibles, les cibles DIP gamma plus, négatives ou les DAA. Donc, d'une manière ou d'une autre, si ces cellules existaient au préalable, c'est qu'elles étaient préspécifiées. Donc, il va falloir maintenant les faire se joindre avec leurs photorécepteurs qui proviennent de la rétine. Donc, en fait, l'idée qu'on peut faire, c'est maintenant qu'on peut essayer de modifier un petit peu le système. Par exemple, au lieu d'avoir ce rapport 35%-65%, on peut avoir un mutant de spineless. Dans un mutant de spineless, l'un des sous-ensembles de R7 n'était plus spécifié. Donc, tout est de type pale, ou bien alors on peut exprimer, comme je vous le disais au préalable, spineless partout. On peut avoir à ce moment-là spineless, donc tout le monde va être yellow. Ou on peut enlever tous les cellules R7 en un mutant qui s'appelle sevenless, qui n'a plus de cellules R7. Ou bien alors on peut simplement transformer tout le monde en cette dorsal margin, donc tout le monde va avoir la lumière polarisée. Et on peut se voir, une fois qu'on a changé la distribution de ces photorécepteurs, qu'est-ce qui se passe au niveau de leur cible? Trois exemples très simples. Sur le wild tap, vous apercevez que vous avez les cellules DM8 qui expriment deep gamma, avec leur colonne, leur préférence totale pour les cellules R7 yellow. Quand on enlève les cellules R7 yellow, les cellules DM8 disparaissent almost complètement, pas complètement, en partie, et surtout, elles perdent leur connexion particulière avec les cellules yellow. Par contre, on augmente le nombre de cellules de type yellow R7, vous avez une augmentation énorme du nombre de cellules qui ont un nombre de cellules et chacune de cellules DM8 a un contact avec une cellule R7. Donc ça veut dire qu'en fait, on avait suffisamment de cellules pour accommoder le fait qu'on peut augmenter le nombre de cellules R7 yellow et que si on n'en a pas assez, ces cellules vont disparaître d'une manière ou d'une autre. On peut faire la même chose avec les autres cellules et on peut s'apercevoir un petit peu au niveau de la présence de ces cellules. Donc on peut compter ces cellules au cours du développement. Donc très tôt au cours du développement, bien avant que l'innervation, on a un certain nombre de cellules et que dans une situation normale, ce nombre de cellules va diminuer et reste stabilisé. Et là, c'est le moment où les connexions avec les cellules R7 se font. Donc en fait, il semble que ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une production en excès des cellules DM8 gamma. Lorsqu'elles reçoivent une innervation par un R7 gamma, elles survivent. Lorsqu'elles ne reçoivent pas, celles-là, qui étaient là en plus grand nombre, vont disparaître, vont mourir. D'accord ? Si maintenant, on élimine toutes les cellules R7 yellow, donc on a beaucoup, beaucoup moins de stimulation, à ce moment-là, le nombre décroît énormément, vous avez très peu de cellules qui vont pouvoir survivre. Maintenant, si on empêche ces cellules de mourir en mettant un gène qui empêche la mort cellulaire, on s'aperçoit qu'on rescue, on secourt le nombre de cellules, et qu'en fait, vous avez un nombre de cellules diamutes qui reste important, bien que parce qu'elles n'arrivent pas à mourir. Donc, en fait, l'idée qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, la nature produit un excès de cellules diamutes, gamma, si elles sont connectées à leur cible, à leur R7 adéquat, elles vont pouvoir survivre. Si elles ne trouvent pas ça, elles vont mourir. Et si elle n'a aucune de cellules, la plupart d'elles vont mourir, il ne va rester qu'un tout petit nombre. D'accord ? Donc, à ce moment, on peut savoir, est-ce que Deep Gamma et Deep Pierre 11 sont requis ? On peut faire la même chose avec des mutations Deep Pierre Gamma et Deep Pierre 11. On obtient la même chose, en fait, les quantifications, soit dans un mutant Deep Gamma, soit dans un mutant Deep Pierre 11. On a aussi une décroissance énorme du nombre de cellules qui survivent. C'est qu'en fait, ces cellules sont non seulement là, elles sont suffisantes et nécessaires et suffisantes pour maintenir en survie ces cellules, et qu'il faut absolument faire ce P35, qui est une molécule de survie, pour pouvoir arriver à ce que ces cellules arrivent à se maintenir en vie. Donc, en conclusion, ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, on a un système ici précis où on a pu en voir qu'il y avait une spécification bien précise des cellules photoréceptrices, soit yellow, soit pale, soit DRA, une observation bien précise au cours du développement des leurs cibles DM8, yellow, pale and DRA DM8, et que uniquement celles qui arrivent à se trouver vont pouvoir survivre, celles qui ne se trouvent pas vont disparaître. Donc, on a compris en fait comment un système d'adhésion simple permet la détermination de ce système stochastique et comment on arrive à matcher, à coordonner l'expression stochastique et l'expression déterministique de ces deux types de cellules et d'arriver à ce que voir que le système fonctionne de façon si précise. Donc je crois que j'ai illustré aujourd'hui, de façon un petit peu longue peut-être, deux systèmes qui sont soit très complexes dans le cas de l'olfaction, soit beaucoup plus simples au niveau de la vision, où en fait on a des décisions stochastiques et des décisions déterministes et qu'en fait, il y a un jeu constant qui se fait pour que ces deux systèmes puissent être coordonnés. Dans le cas du système olfactif, une expression au hasard va devenir une expression bien déterministe qui va en redevenir au hasard plus tard. Dans le cas du système visuel, une coordination parfaite entre les deux types de cellules, les trois types cellulaires qui est transmise par l'intermédiaire de ces molécules d'adhésion qui forment des paires bien spécifiques. Donc ça c'est le travail de Maximilien Courgeon qui est un étudiant français de mon laboratoire et une partie du travail que je vous ai décrit est basée sur des diapositives de Li Chun-Luo qui est à Stanford, de Stavros Lombardos qui est tout ce qui concerne l'expression stochastique des récepteurs olfactifs à Columbia. Vanessa Ruta et Cruvi Caron ont regardé plus précisément ce qui se passe au niveau de la drosophile, au niveau de l'expression du circuit qui permet de traiter l'information olfactive. Je vous remercie.